Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En préambule à l'opéra rock Le Rouge et le Noir inspiré du célèbre roman, Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de Stendhal et de son œuvre. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Cela faisait longtemps que j'avais envie de vous parler de Stendhal. En vérité, depuis la parution, il y a deux bonnes années, du dictionnaire amoureux que lui a consacré Dominique Fernandez. Je suis heureux que l'auteur ait accepté de venir cet après-midi nous parler de cet univers qu'il connaît comme personne. Et si vous le permettez, je vais commencer par vous raconter l'histoire de ce roman clé de notre littérature, Le Rouge et le Noir, ou Les Amours Fatales de Julien Sorel et de Madame de Rênal, une œuvre qu'on aurait tort de résumer à quelques souvenirs scolaires.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée qui venait demander quelques grâces à Monsieur le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature arrêtée à la porte d'entrée et qui, évidemment, n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Madame de Rênal s'approcha, distraite un instant de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille « Que voulez-vous ici, mon enfant ?» Julien se tourna vivement et, frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question. « Je viens pour être précepteur, madame, » lui dit-il, tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mieux. Julien Sorel, un jeune homme de 19 ans, vient donc de rencontrer, sous vos yeux, sous le style, sous la plume de Stendhal, Madame de Rênal, épouse du maire de Verrières en Franche-Comté, le village dont Julien est originaire. Le garçon vient de se voir proposer le poste de précepteur des enfants du maire, ce qui va bouleverser le cours de son existence, donner naissance à l'un des grands romans de notre littérature, Le Rouge et le Noir, et rendre à jamais fameux son auteur, Henri Bell, alias Stendhal. Stendhal a 46 ans donc, à la veille de cette révolution qui va chasser du trône le roi Charles X. Il a déjà une longue carrière derrière lui, et pas seulement littéraire. Car cette carrière, il faut vous le dire, a commencé tôt. À 17 ans seulement, au tournant du siècle, Henri est entré au ministère de la guerre en tant que commis surnuméraire. Nous dirions aujourd'hui qu'il était stagiaire. Le jeune homme s'est ensuite engagé dans l'armée. Il a pris la route de l'Italie alors que Bonaparte, premier consul, menait sa guerre contre l'Autriche. Le jeune Bell, sous-lieutenant au 6e régiment de dragons, va donc se battre. Et quelques années plus tard, le voici adjoint au commissaire des guerres en Westphalie, dans la région de Brunswick, qui est à l'époque sous administration française. C'est là qu'il connaît une grande passion amoureuse avec une jeune Allemande nommée Mina, dans une ville appelée Stendhal. Rentré à Paris et devenu auditeur au Conseil d'État, Henri est affecté à l'inspection du mobilier des bâtiments de la couronne avant de se lancer dans la campagne de Russie et d'assister au désastre de l'armée impériale. Et la littérature, me direz-vous? Eh bien, Henri Bell écrit. Il écrit depuis toujours, mais c'est à la chute de Napoléon qu'il a finalement choisi d'en faire son métier, avec des textes dans tous les genres, critique littéraire et picturale et musicale, avec une vie de Mozart, une vie de Haydn, un essai de l'amour, rien de moins, des guides de voyage, des correspondances. Henri Bell va prendre donc un nom de plume. Il aura beaucoup de pseudonymes. Il sera désormais Stendhal, comme la petite ville de ses amours allemandes, mais avec un H après le D. Fatalement, Stendhal, puisqu'il faut désormais l'appeler ainsi, Stendhal en est venu à tâter du genre romanesque. Lui qui pourtant écrivait dans un journal anglais que l'art de faire des romans est presque lettre morte en France. Eh bien, son premier roman s'appelle Armance, publié au mois d'août 1827. L'ouvrage dépeint le Paris de la Restauration. Il porte un sous-titre explicite, quelques scènes d'un salon de Paris en 1827. Seulement, Armance est un échec cuisant, ce qui ne dissuade pas Stendhal de s'attaquer dans la foulée à un nouvel ouvrage romanesque, ce qui donc va devenir Le Rouge et le Noir. Je vous le disais, le protagoniste Julien Sorel, fils de charpentier, est originaire de Verrières, un village de Franche-Comté situé au milieu des montagnes et des forêts. Voici ce que nous dit dans son dictionnaire amoureux de Stendhal, Dominique Fernandez. C'est un joli garçon à la taille gracile, aux traits délicats, aux grands yeux noirs capables de se faire admirer pour sa prestance à cheval, bien qu'il sache à peine monter, grand lecteur et doué d'une mémoire exceptionnelle, au milieu d'une famille inculte mais pauvre, d'une intelligence et d'une ambition bien supérieure à son état. Alors que Julien se décidait à embrasser la carrière ecclésiastique, il est engagé comme précepteur des enfants du maire, et c'est donc ce que nous avons entendu tout à l'heure, hein, c'est cette rencontre avec Madame de Rênal. Voici comment la décrit Stendhal, cette Madame de Rênal. « Elle est une de ces femmes, dit-il, qui ne savent pas si elles sont belles, qui l'ignorent, qui regardent leur mari comme le premier homme du monde, tremblante devant ce mari et croyant l'aimer de tout leur cœur, douces, modestes, tout entières à leur ménage, chastes et retirées, aimant Dieu et priant. » Eh bien, c'est de cette rencontre entre Julien Sorel et Madame de Rênal que va naître le drame. Julien est, je vous l'ai dit, le précepteur des enfants. Il va partir avec la famille pour Vergy, qui est la maison de campagne des Rênal, à l'écart de Verrières. Madame de Rênal devient à ce moment-là sa maîtresse. Avec elle, il a, nous dit Stendhal, le plaisir d'exister. Seulement ça s'était compté sans le mari, monsieur de Rênal, qui finit par découvrir ce qui se trame sous son toit à cause d'une lettre anonyme. Julien alors part pour Besançon, pour le séminaire. Il va devenir un jour secrétaire du marquis de La Mole, après avoir d'ailleurs revu madame de Rênal en secret. Et c'est dans l'entourage du marquis de La Mole, à Paris, qu'il va se faire remarquer, qu'il découvre en quelque sorte la mondanité. Et incidemment, c'est dans cet entourage qu'il va rencontrer la fille de son nouveau maître, Mathilde. Julien en tombe amoureux et après une relation tumultueuse, Mathilde et Julien songent à se marier. Naturellement, le marquis de La Mole s'oppose à cette union. Or, alors que l'amour semblait en passe de l'emporter, une lettre fatale de madame de Rênal au marquis de La Mole va ruiner tous les espoirs de Julien. Julien qui va s'en aller tirer deux coups de feu sur madame de Rênal dans l'église de Verrières. Elle survit à ses blessures, mais ce qui ne survit pas, évidemment, c'est la réputation de Julien.
Le bal sur Europe 1, un extrait de la symphonie fantastique de Berlioz. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir.
Pourquoi Julien Sorel a-t-il tiré deux coups de feu sur Madame de Rênal ? La question se pose évidemment et les exégètes de l'œuvre ne sont pas tous d'accord sur la réponse qu'il convient d'apporter. Voilà ce que nous dit dans son dictionnaire amoureux Dominique Fernandez. Considérons que le dénouement est dans la droite ligne du roman, dit-il, que la décision de commettre le crime parachève le portrait de Julien, que, en voulant tuer madame de Rênal, il n'obéit pas à une impulsion subite sans cohérence avec son caractère, mais à un ordre que lui dicte sa conscience. J'ai été trahi, Je me venge, j'y sacrifie ma vie, mais il n'est pas question de reculer, c'est presque une question d'honneur militaire. Et c'est vrai que, d'une façon générale, on peut dire que ce crime a une dimension presque inexplicable. Nous y viendrons tout à l'heure. Je poserai la question à Dominique Fernandez. Nous essaierons de comprendre cette accélération dramatique à la fin du roman. En tout cas, Julien Sorel va être jugé, bien entendu, et il va s'adresser aux jurés. C'est un moment qui fait évidemment penser au grand monologue de Figaro dans la pièce éponyme de Beaumarchais. C'est une page de la littérature française qui a eu une importance politique, qui a eu un écho social absolument considérable. « Messieurs les jurés, dit Julien, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix, nous dit Stendhal. Je ne me fais point illusion, la mort m'attend, elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Mais quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que dans le fait, je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Malgré la demande de clémence de la victime des coups de feu, puisque Madame de Rênal va faire le déplacement, Julien Sorel, bien sûr, est condamné à mort. Cette histoire, Stendhal ne l'a pas intégralement inventée, en tout cas il n'en a pas découvert, il n'en a pas imaginé la trame. Elle est inspirée, cette histoire, de deux faits divers, de deux affaires retentissantes rapportées par la Gazette des tribunaux. La première de cette affaire date du 27 décembre 1827, donc très très peu de temps avant qu'il ne se mette lui-même à écrire. Ce jour-là, un séminariste de 25 ans du nom d'Antoine Berthet est jugé aux assises de l'Isère. On donnerait le bon Dieu sans confession à ce petit jeune homme tout frêle, fils de forgeron, entré à 16 ans au petit séminaire de Grenoble. C'est lui qui s'est occupé des enfants d'un couple, les Michou, avant de séduire la mère de famille, Madame Michou, qui est d'une dizaine d'années plus âgée. Cette relation lui vaut son renvoi. Et là, Berthet, décidé à se venger, achète des pistolets à Lyon. Et au matin du dimanche 22 juillet 1827, il part pour le village de Brangues, il assiste à la messe, il s'installe pas loin de Madame Michou, le curé donne la communion et soudain, deux coups de feu retentissent dans l'église. Berthet vient de tirer sur Madame Michou, qui s'écroule. Elle survivra, elle aussi, à ses blessures. Je devrais dire, déjà, elle survivra à ses blessures. Nous sommes vraiment très proches de l'histoire du rouge et le noir. L'autre fait divers dont s'est inspiré Stendhal, c'est l'affaire Lafargue. L'accusé, cette fois, est un ébéniste également de 25 ans qui a tué sa maîtresse, Thérèse Castarède. Alors là, lui, il l'a vraiment tué. Son procès s'ouvre devant les assises des Hautes-Pyrénées en mars 1829. Stendhal va étudier tout ça. Il va lire ce qu'on écrit à propos de ces deux procès et il reprendra mot pour mot certaines des phrases parues dans la chronique judiciaire. Je cite par exemple un petit extrait de Stendhal directement tiré d'un journal. Il entra chez l'armurier du pays. Julien eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il voulait une paire de pistolets. L'armurier, sur sa demande, chargea les pistolets. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup. Elle tomba. Vous retrouvez les mêmes phrases, vous retrouvez les mêmes descriptions dans le roman « Le rouge et le noir » qui a comme sous-titre, comme premier sous-titre, car il en aura d'autres au fil des éditions, comme premier sous-titre « Chronique du XIXe siècle ». Et en effet, Stendhal fait référence à des événements contemporains à la rédaction de l'ouvrage, qu'il ne cesse d'ailleurs de remettre sur le métier. Il le lit, le relit, le corrige. On trouve une allusion à la pièce Hernani de Victor Hugo, dont la première a lieu le 25 février 1830. Le Rouge et le Noir évoque également le ballet Manon Lescaut, qui est créé la même année. Vous voyez, toutes les résonances de l'actualité, d'une certaine façon. D'autres événements politiques sont mentionnés, l'expédition d'Alger en juin 1830, la guerre d'indépendance grecque, bref, on est dans ce contexte. Le Rouge et le Noir contient aussi un certain nombre d'éléments autobiographiques. Nous y viendrons tout à l'heure, puisque Dominique Fernandez voit en Julien Sorel, partiellement, je le cite, un autoportrait de Stendhal. Après tout, ne lit-on pas en exergue de l'ouvrage cette phrase qui dit ce que va être l'ouvrage ? Un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le Rouge et le Noir est au cœur de l'histoire. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour continuer d'évoquer Julien Sorel, le personnage créé par Stendhal.
Je vous le disais, Julien Sorel a de nombreux points communs avec Stendhal. Il est, bien entendu comme lui, un adorateur de Napoléon, un grand chantre de l'épopée impériale. La légende napoléonienne lui a été décrite par un vieux chirurgien-major qui s'était pris d'affection pour lui et qui lui a donc raconté tous ses souvenirs militaires, ses souvenirs de l'empereur. Sorel a même un portrait de Napoléon caché sous son lit. Or, Stendhal, on l'a dit, a eu des responsabilités et de nombreuses distinctions sous le consulat et sous l'Empire. Le pseudonyme de Stendhal est, selon Henri Lemierre, je le cite, comme une proclamation publique et codée durant la restauration de sa fidélité à l'Empire. Et ce qui est touchant, c'est que Stendhal, indirectement, évoque dans Le Rouge et le Noir ses propres aventures amoureuses. L'une de ses relations abordées implicitement, c'est celle entretenue avec Clémentine, comtesse Curial. La comtesse Curial est nommée par Stendhal Menti ou Manta. Il y a d'ailleurs un très bel article dans le dictionnaire amoureux. Elle devient la maîtresse de Stendhal et puis elle lui annonce sa rupture par une lettre. Une séparation sans doute motivée par un drame personnel, puisqu'une des filles de la comtesse est malade et qu'elle va mourir au début de l'année 1825. Eh bien, dans Le Rouge et le Noir, le plus jeune fils des Rénal est lui aussi malade. Et Madame de Rénal, qui pense que ce drame est un châtiment envoyé par Dieu pour la punir de l'adultère, pour la punir d'avoir emprunté le mauvais chemin aux côtés de Julien Sorel, Madame de Rénal décide de rompre avec son jeune amant avant de le rappeler, forcément. En 1829, justement, l'année qui a vu naître Le Rouge et le Noir, Henri, ou Stendhal donc si vous voulez, entretient une liaison avec Alberte de Rubempré, une liaison de 6 mois avec cette jeune femme également très proche de l'écrivain Prosper Mérimée et du peintre Eugène Delacroix. Stendhal tira une petite vengeance de ses infidélités en appelant du nom de Madame de Rubempré, dans Le Rouge et le Noir, une vieille dévote dont le clergé de Besançon attend la mort parce qu'elle a légué à la cathédrale ses robes de noces en superbes étoffes de lion brochées d'or, raconte Dominique Fernandez. Il y a comme ça énormément d'éléments autobiographiques. Il y a toute une part de la vie même de Stendhal dans son œuvre en général et tout particulièrement dans Le Rouge et le Noir. Il travaille, je vous l'ai dit, il retravaille beaucoup à son manuscrit. Rien à voir avec le précédent roman, Armance, qui était sorti de l'encrier en seulement 31 jours. Lorsque Le Rouge et le Noir est terminé, Stendhal trouve son intrigue un petit peu sèche néanmoins. Et puisqu'il a été nettement échaudé par son premier échec, il décide de ne publier ce roman qu'à 750 exemplaires. Comble de malheur, cette première édition est imprimée fin juillet 1830, c'est-à-dire exactement au moment de la Révolution de juillet, au moment de ce qu'on va appeler les Trois Glorieuses, ces journées des 27, 28 et 29 juillet 1830 qui ont chassé le roi Louis XVIII du trône et appelé le roi des Français, le roi citoyen Louis-Philippe Ier. Les ouvriers typographes à cette époque abandonnent leurs machines, ils vont participer aux émeutes, ils sont complètement pris par les événements et donc il ne travaille pas à l'édition du roman. Le Rouge et le Noir sera finalement publié quelques mois plus tard, en novembre 1830. Il est en quelque sorte l'un des tout premiers grands romans de la monarchie de Juillet. Alors, les critiques sont très partagées au moment de la sortie du livre. Il faut vous dire qu'il y en a qui sont carrément enthousiastes. Voici ce qu'écrit Honoré de Balzac. Le rouge et le noir est une conception d'une sinistre et froide philosophie de ces tableaux que tout le monde accuse de fausseté par pudeur, par intérêt peut-être, écrit-il. Mais Balzac va plus loin, car il trouve aussi dans ce roman, je le cite, « le génie de l'époque ». La senteur cadavérique d'une société qui s'éteint, la traduction de la pensée intime d'un vieux peuple qui attend une jeune organisation, un rire de démon, heureux de découvrir entre chaque homme un abîme de personnalité où vont se perdre tous les bienfaits. Toujours est-il que Le Rouge et le Noir ouvre la voie à toute une série de romans à succès qui vont faire d'Henri Bell, qui vont faire de cet auteur Stendhal un de nos grands écrivains français du XIXe siècle. On pense à Lucien Levenne, bien entendu, nous y reviendrons tout à l'heure, à La Chartreuse de Parme, bien sûr. Comme la plupart des classiques de notre patrimoine littéraire, Le Rouge et le Noir conserve néanmoins une part de mystère. Je vous ai dit qu'on avait du mal à suivre Julien Sorel jusqu'à l'église de Verrières où il va commettre son crime. Et évidemment, ce crime en soi est un mystère. On a du mal surtout à comprendre comment Julien Sorel, qui était destiné aux ordres, qui avait cette vocation qui le menait au grand séminaire, comment Julien Sorel va finalement devenir tout simplement un amant éperdu qui va tomber successivement amoureux de la mère de ses élèves et bien entendu de sa chère Mathilde. Tout cela est mystérieux et parmi les mystères que nous pose cette œuvre, il y en a un qui est célèbre. Il s'agit de son titre, tout simplement. Pourquoi a-t-on appelé ce roman, pourquoi Stendhal l'a-t-il titré Le Rouge et le Noir? J'ai très envie de poser la question à mon invité. Bonjour Dominique Fernandez.
Bonjour.
J'ai posé beaucoup de questions au cours de ce récit et vous êtes là pour nous apporter les réponses. Nous sommes donc tout oui.
Si je peux.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le Rouge et le Noir était au cœur de l'histoire cet après-midi. Franck Ferrand, vous recevez l'écrivain et romancier, essayiste et grand voyageur Dominique Fernandez de l'Académie française. Il signe le dictionnaire amoureux de Stendhal chez Plon Grasset.
Est-ce que vous vous considérez vous-même, Dominique Fernandez, comme un stendhaliste ou un stendhalien? Vous faites la distinction dans un long article sur les stendhaliens, qui est d'ailleurs une sorte de présentation du club, car c'est un club international qui couvre des siècles, qui couvre les continents. Il y a beaucoup d'amoureux de Stendhal, mais il y a ceux qui sont du côté universitaire, dans la recherche, et ceux qui sont plutôt les amis.
Les meilleurs livres sur Stendhal sont ceux des non-universitaires. Il y a Léon Blum, hein. On oublie qu'avant d'être dans la politique, il était un critique littéraire, il a écrit un article qui s'appelle Belle et le Bélisme, qui est extraordinaire. Il y a Thibaudet, il y a Jean Prévost.
Ça, ce sont les maîtres, en quelque sorte, peu incontournables.
Qui ne sont pas des érudits. Alors, d'autre part, il y a les érudits très importants qui font les éditions, parce que vous savez, Stendhal, la plupart de ses œuvres sont posthumes, en fragments, donc c'était très difficile de retrouver, de mettre ça en ordre.
C'est un travail presque archéologique que d'éditer Stendhal.
Alors, il y en a un très grand qui était à la fois stendhalien et stendhaliste, c'est Martineau, qui est le premier à faire l'édition complète d'un joli petit édition du Divan, en 75 volumes. Mais les autres, après, sont vraiment, ils penchent vers l'édition. Alors, c'est très utile, évidemment. Ça permet aux autres d'écrire des choses intelligentes.
Ça leur donne un socle, en quelque sorte.
Oui, un socle. Et sans les stendhalistes, les autres risquerait d'être approximatif. Je dis que là, c'est très solide, dans les éditions surtout.
Ce que je vous propose cet après-midi, c'est de laisser un peu de côté l'érudition et d'entrer plutôt dans le sens, dans le suc, dans la substance même de cette œuvre. Alors, tout de même, une question qui pourrait se rapprocher d'un intérêt d'érudit, c'est le titre même, Le Rouge et le Noir. Pourquoi ce titre? Que désigne-t-il au fond?
Là, on s'interrogeait là-dessus, alors là, tout le monde s'interrogeait. L'idée répandue, c'est que c'est les militaires et les ecclésiastiques qui étaient les deux grandes voies pour l'ambition de Julien Sorel, enfin pour tout le monde. On était ou soldats ou curés. Le rouge
donc,
et le noir.
Donc soldat, c'est le rouge. Et curé,
le soldat était
le
rouge à l'époque. Ah oui, bien sûr, on n'avait pas découvert que c'était une cible facile. Oui. Jusqu'à la guerre 14, elle était rouge.
Avec le pantalon Garance.
Donc il y a ça. Alors moi, je ne sais pas si moi ou d'autres, enfin il y a d'autres hypothèses. C'est peut-être aussi le jeu de la roulette, le rouge et le noir, vous savez, parce qu'il joue, Julien, il parie, il prend la main à 10h du soir, il met l'échelle À l'hôtel de la Mole, c'est un peu comme on joue, quoi.
Vous dites dans votre dictionnaire amoureux que c'est peut-être aussi les couleurs emblématiques des deux héroïnes, Madame de Rênal et Mathilde de la Mole.
Madame de Rênal est toujours noire et l'autre est rouge. Enfin, l'autre est déjà
pleine d'éclat, elle est jeune.
Oui, l'autre est vieille pour l'époque, elle doit avoir 40 ans, donc c'est une vieille.
La bourgeoise et l'aristocrate aussi,
voilà,
peut-être.
Voilà, la bourgeoise et l'aristocrate. Enfin, ou bien, ça n'a aucun sens, ça lui plaisait, rouge et noir.
Il y a finalement, chez ces très grands auteurs, une part irréductible de mystère.
Ah oui,
on s'en rend compte avec cette affaire du crime de Julien Sorel.
Oui.
Pourquoi, d'un seul coup, l'action s'accélère-t-elle? Et pourquoi, après la révélation du passé de Julien au marquis de la Mole par la lettre de Madame de Rênal, pourquoi, d'un seul coup, voit-on Julien fondre sur Verrières, se précipiter à l'église et tirer deux coups de feu sur celle qu'il a tant aimée, qu'il continue d'aimer? Vous avez vous-même votre avis sur la question?
Oui, alors j'ai plusieurs avis d'ailleurs, en fait. Il y a l'avis de moi qui suis romancier, c'est qu'il avait marre de son roman, il fallait finir. C'est un gros roman, hein, je sais pas, 600 pages, 800 pages.
Oui, il était au bout, il fallait faire une fin.
Vous savez, quand on écrit un roman, on est dedans, puis d'un coup, on en a assez, il faut trouver une conclusion, on bâcle un peu. Moi, je pense que c'est vrai, parce que vu le tempérament de Stendhal, qui n'était pas du tout un perfectionniste...
J'espère que les candidats au bac de français ne vont pas présenter cet argument à leurs examinateurs, ça pourrait leur valoir de mauvaises surprises.
Parce que, vous savez, c'est pas un perfectionniste, il se relisait même pas. Il envoyait ses trucs à l'imprimerie, donc ça, je crois que c'est la plus vraisemblable, hein. Et puis il y a l'autre, c'est peut-être un raptus, l'autre c'est simplement que le sens du devoir, puisqu'elle l'a trahi en le dénonçant, donc quand on est trahi, il faut se venger.
C'est
donc,
une question morale, en quelque sorte.
C'est un crime, enfin une tentative de crime par morale. Il y a encore une autre explication, simplement c'est un raptus. Tout d'un coup il déjante, quoi, ça nous arrive à tous, on fait des choses, pas des crimes, mais on fait des choses qui étaient inattendues de notre part, tout d'un coup on ne sait pas pourquoi. Et je pense à tous ces criminels aujourd'hui qui tirent tout d'un coup, qui n'étaient pas programmés pour tirer, mais tout d'un coup, quelque chose se déclenche et puis pof, ça va.
Quelque chose de très moderne tout de même.
Oui, c'est très moderne.
Pour un roman du premier 19e siècle.
Et on sait très bien qu'il y a des crimes, des criminels, on dit, oh, c'était un gentil garçon. Et
ce qui est le cas de Julien Sorel, incontestablement.
Voilà, et tout d'un coup. Ben, il y a une espèce de fureur, tout ce qui rentrait en lui, tout ça.
Et en même temps, cette fureur exprime peut-être une forme de frustration sociale, quasi politique, qui s'exprime dans les mots que je viens de dire, de grande déclaration de Julien à ses juges.
Oui.
Il y a une dimension politique dans ce roman.
C'est un roman entièrement politique.
Entièrement politique.
Malgré le fameux mot, parler de politique dans un roman, c'est un coup de pistolet dans un concert. Je crois qu'il a fait exprès pour pas qu'on voit que c'était un roman politique. 1830, c'est la Restauration qui l'a hissé, et c'est un roman contre le pouvoir.
Et d'ailleurs, le roman sort exactement au moment de la Révolution des Trois Glorieuses, qui va mettre les libéraux, d'une certaine manière, et surtout le roi Louis-Philippe Ier au pouvoir, et qui chasse le dernier souverain de droit divin. Oui, c'est ça, hein.
Il détestait les curés, ce régime, et Sorel, qui est d'origine très modeste, fils d'un menuisier, provincial, tout ça, il y a aussi cet aspect. Il venge sa classe, il venge son milieu contre les riches.
Il y a un peu, donc, d'Henri Bell, il y a un peu de Stendhal lui-même dans Julien Sorel.
Ah oui, mais un romancier se met partout, hein. Il n'y a pas que dans un seul personnage, il se met aussi dans les femmes, dans les chiens, il y a dans partout, dans les arbres. Le vrai romancier, il se distribue partout.
Les grands personnages, et vous le montrez très bien dans le dictionnaire, les grands, célèbres personnages de l'œuvre stendhalienne sont par définition des doubles. Autant de doubles, autant de projections de Stendhal lui-même. Lucien Levesne, évidemment.
Oui, Lucien Sorel est le plus proche, évidemment, le plus double. Et Fabrice sera un autre double, Lucien, même Lamiel, une fille.
Alors oui, ça c'est quand même extraordinaire.
Oui, c'est le génie, ça. Mais c'est exactement le même type de personnage qui méprise le commun, et qui est ambitieux, qui est brillant, qui est insolent.
Mais la Chartreuse de Parme est troussée, si j'ose dire, en 52 jours, alors que Lamiel, c'est long, ça dure plus de 2 ans. C'est une longue gestation qui d'ailleurs aboutit à une forme d'avortement.
Oui, et Lucien Levesne, il n'a pas fini. La vraie édition date de 2 ans dans la Pléiade. Moi, j'ai vu les manuscrits à Grenoble. On voit qu'il n'arrivait pas à écrire. Il s'est barbouillé de partout, s'est raturé. Il y a des...
Enfin, que ce soit Lucien, Julien, Fabrice Del Dongo, bien entendu, ce sont toujours des jeunes gens pleins de fougue et de beauté. Oui. C'est pas tellement Henri Bell, ça. C'est pas le vrai
Stendhal.
Non,
c'est le contraire, mais justement.
C'est ça.
Ben, il se venge de lui-même. Il se rattrape. Il se compense sa laideur, son manque de succès auprès des femmes, sa pauvreté. il prend des jeunes gens beaux, quelquefois riches comme Fabrice.
Alors que lui fils, avait tellement de soucis d'argent.
Ou bien Lucien qui est fils d'un sénateur. C'est ça le double, c'est quelqu'un qui dans lequel on projette tout ce qui vous manque, quoi.
Quelles sont les obsessions de Stendhal? Quelles sont les grandes notions qui, revenant constamment dans son œuvre, nous permettent de mieux cerner la psychologie même de l'auteur? C'est ce que nous allons voir dans un instant, Dominique Fernandez.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
On m'a souvent dit, reste à ta place, les acquis des nantis te dépassent, le lit où tu es né t'interdit. D'espérer, tu n'es bon qu'à courber le dos. On est ce qu'on est, tu dis merci et c'est tout. Il faut s'incliner sans s'indigner jusqu'au bout. Soit tu n'es roi, soit tu n'es rien. Mais dis-moi, pourquoi ce chemin de croix? Je veux la gloire à mes genoux. Je veux le monde ou rien du tout. Pas les menus plaisirs, pas les petits désirs, les privilèges. De l'amour fou, je l'accorde à votre cou. Pas les menus plaisirs, pas les petits sourires, les sortilèges. On m'a souvent mis plus bas que terre.
Un extrait de la comédie musicale Le Rouge et le Noir, un spectacle européen présenté sur la scène du Palace à Paris dès le 22 septembre prochain. On écoutait Com qui incarne Julien Sorel et c'était La gloire à mes genoux. Stendhal et le roman Le Rouge et le Noir sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'écrivain, romancier, essayiste et grand voyageur, Dominique Fernandez de l'Académie française. Il signe un dictionnaire amoureux de Stendhal.
Nous parlions de l'incroyable modernité de cette œuvre de Stendhal. Vous parliez tout à l'heure de cette espèce de précipité dans la construction dramatique avec le crime de Julien Sorel. Le style lui-même est une forme presque déjà de non-style au XIXe siècle. Les livres immortels ont été faits en pensant fort peu au style, écrit-il lui-même, et vous le citez. Cette phrase, dites-vous, est une des quatre phrases de Stendhal que je préfère. Je la range à côté de ce qu'il dit sur l'amour dans le ciment. Il faut aller voir votre article ciment. Le bonheur à la Scala, il faut aller à la Scala. Et la dent de devant qui manquait dans la bouche de Caroline, ça c'est à l'article Cimarosa. Je laisse à nos auditeurs le soin d'aller fouiller dans votre dictionnaire. Cette pensée sur le style, dites-vous, il la reformule, la module plusieurs fois dans des ouvrages différents. Rome et Florence en 1817, l'Italie en 1818, Racine et Shakespeare. Journal, elle résume bien sa théorie sur la question, lui qui avait horreur de toute théorie. « Je crois, disait donc Stendhal, que pour être grand dans quelque genre que ce soit, il faut être soi-même. Les livres immortels ont été faits en pensant fort peu au style. »
Et oui, parce que penser au style, c'est penser au public, aux gens, à la mode surtout.
Mais c'est ça.
Et on voit bien, on a bien vu en France les ravages du nouveau roman, par exemple.
Et la mode se démode, le nouveau roman.
Il pensait qu'au style, il est enterré depuis longtemps, et il n'en restera rien, parce qu'il pensait que au style, et le reste, il disait, ça ne compte pas. C'est vrai que le vrai écrivain, enfin Stendhal, pour moi, c'est le plus grand écrivain français. Parce que justement, c'est pas un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit sans penser à écrire, qui ne prend jamais la pause.
Et on trouve des amoureux de Stendhal un peu partout. Vous parlez du Stendhal Club d'ailleurs, dont on ne sait pas trop toujours exactement ce qu'il fait, mais qui a le mérite d'exister.
Enfin non, nous l'avons ressuscité il y a trois ans avec Charles Dantzig, moi et quelques autres. Et on a fait deux numéros d'une revue.
Une revue.
Et maintenant c'est fini.
Voilà.
Mais par définition, Stendhal Club, c'est quelque chose d'éphémère.
C'est une poussée de fièvre stendhalienne.
Oui, c'est pas une académie fixe. C'est une chose qui comme ça, un pétard qu'on jette.
Par quel biais vous êtes-vous rapproché de Stendhal, vous, Dominique Fernandez? J'ai ma petite idée sur la question. On connaît l'amour de Stendhal pour l'Italie, bien entendu.
Oui, mais c'est bien avant, moi.
Et vous, c'était avant?
Moi, c'est à 14 ans, j'ai lu Rouge et Noir, justement. C'était une première lecture, j'imagine, et j'étais absolument subjugué.
Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce roman?
Je ne m'en rappelle plus, mais l'histoire de Julien, sans doute, c'est comme fascinant.
Le naturel absolu.
Non, puis la conquête, à 14 ans, on se rêve tous à...
Peut-être un peu d'ambivalence et d'ironie, car il y a beaucoup d'ironie dans cette
œuvre. Je ne sais pas, enfin, je sais que depuis lors, je suis Stendhalien.
quand nous étions au lycée, et ce sont moi aussi des souvenirs scolaires qui me remontent forcément à l'esprit, on nous parlait de la cristallisation stendhalienne.
Mais là, c'était pas scolaire, hein.
Ah non, vous, c'était une lecture personnelle, oui.
J'ai pris de ma mère qui n'était pas contente d'ailleurs que je lise ça. C'était pas assez scolaire, justement. C'était pas dans les programmes, c'était trop. Puis c'est la liberté même.
On parle de la cristallisation, de l'amour stendhalien, le rouge et le noir, et l'expression même de, ce phénomène.
On parle de toutes les perfections, la personne qu'on croit aimer, et du coup on l'aime.
On la part, d'une certaine manière, de vertu et d'idée.
Oui.
Il y a également, dans ce roman, nous parlions tout à l'heure d'une critique politique, etc., il y a une critique sociale aussi, très forte.
Très forte. Bah, le salon du Marquis de la Mole.
Marquis de la Mole, incarnation de ce régime de la Restauration.
Voilà. Et puis
ce grand retour en arrière,
en quelque sorte. Le maire de Verrières, là, quand même.
Oui, bien sûr.
Monsieur de Rênal, et puis l'horrible bonhomme, là, comment il s'appelle, là, le Valneau.
Valneau, oui.
L'horrible Valneau.
D'une façon générale, tous ceux qui sont crispés dans une forme de,
voilà,
de conservatisme.
Oui, de pouvoir,
de
même
pouvoir,
déjà.
C'est ça.
Et il avait horreur du pouvoir, quand même.
Stendhal a écrit beaucoup sur les positions sociales, sur la vanité du monde.
Oui, beaucoup. Et lui-même était très vanité.
C'est ça, c'est curieux quand même.
Enfin, lui, son idéal, c'était d'aller à Scala tous les soirs, avec de belles comtesses. Et donc, c'est un idéal de pas de vaniteux, mais de vin. C'est un vin.
Une forme de vacuité, en tout cas.
C'est un idéal de vacuité. Et alors, c'est curieux, parce que c'est vraiment ça qu'il dit. Il était heureux à Scala parce que tous les soirs, il y avait des comtesses, des belles parures, des toilettes, et que...
Il décrit aussi, il décrit plusieurs grands théâtres, mais il décrit le Grand Théâtre de Naples. Il est ébloui par ça.
Oui, ben ça je comprends, c'est magnifique.
Dans Rome, Naples et Florence, justement, on a constamment l'impression d'être sur les traces du président de Brosse. On découvre une Italie pleine de pittoresques, pleine de couleurs et d'amour, d'ailleurs. Et Stendhal semble pour la première fois être au premier degré par rapport à la peinture beaucoup plus distanciée qu'il fait de la société française. On a l'impression qu'il aime l'Italie d'amour.
Ah bah il aime, il s'est fait enterrer belle Milanese, c'est la ville qu'il préférait à cause de la Scala. C'est une ville très belle d'ailleurs, à l'époque c'est une petite ville. Il aimait l'Italie, puis il n'aimait pas Grenoble, il n'aimait pas son père.
Est-ce qu'il n'avait pas plus ou moins assimilé la France à Grenoble?
Oui. Après, il a écrit des choses très belles sur la France. Et moi, un touriste, à son voyage en France. Mais Grenoble, il détestait Grenoble à cause de parce qu'il n'aimait pas son père, c'est tout.
Et il va choisir un pseudonyme allemand de ce village
Stendhal.
De Stendhal, qui est un village hanséatique.
Oui.
Alors, est-ce qu'il l'a fait par référence secrète à un grand amour? C'est possible.
Je sais pas, vous savez on a retrouvé 50 pseudonymes.
Oui, il a écrit tous les noms le plus possible.
Il y a des lettres qui signent XXX, il y a des lettres qui signent Pouf, il y a des lettres qui signent... Il adorait les
D'ailleurs, vous faites un article XXX
sur
tous ces pseudonymes.
Vous avez trouvé un X, une lettre X, il n'y a rien.
Quand même, Stendhal, enfin la ville de Stendhal en Allemagne, sans H d'ailleurs, c'était la ville de Winckelmann. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un rapport?
Je ne sais pas s'il connaissait. Est-ce qu'il connaissait Winckelmann? Il était très connu,
Et puis il aimait tellement l'art classique, qu'il connaissait quand même parfaitement.
Peut-être, oui. Mais je ne sais pas si on a fait des recherches de ce que...
Non, à ma connaissance, non. Est-ce qu'on peut dire d'une façon générale qu'il y a chez Stendhal un amour du beau et du vrai?
Ah oui. Ce qui pour lui est beau et vrai, oui. Mais c'est curieux parce que il aime Guido Reni, par exemple, les femmes qu'il peint, parce que elles ressemblent à ses maîtresses. Il y a toujours un rapport, un va-et-vient entre
avec sa vie.
Sa vie personnelle, et puis il n'y a pas de critère vraiment pour juger un tableau. Le tableau lui plaît, ou même pas qu'il ressemble à sa maîtresse, mais qu'il a vu avec sa maîtresse. Il va au musée avec une de ses maîtresses. Et donc les tableaux qu'ils voient ensemble lui plaisent, lui paraissent beaux. C'est très beau, la musique c'est pareil.
Une forme de subjectivité finalement.
Oui.
Une subjectivité.
Mais je pense, ce que j'aime chez Stendhal, c'est qu'il n'est pas du tout... Il se fiche de l'opinion. Les gens disent, il faut aimer ça, il faut aimer Mozart, il faut aimer machin. Lui, il aime ce qu'il aime, et puis voilà. C'est pour ça qu'il met Cimarosa sur le même plan que Mozart. Eh ben oui, il a raison, parce que pour lui, il a eu autant d'émotions à l'un qu'à l'autre. Alors aujourd'hui on dit, mais comment, Cimarosa, un petit musicien. Mais non, pour lui, ils sont égaux, parce qu'il a reçu les mêmes émotions, le même amour.
Tout est question de vibration.
C'est ça qui est bien.
Merci infiniment Dominique Fernandez. Votre dictionnaire amoureux de Stendhal est publié, alors je dis toujours lorsque nous recevons des auteurs de dictionnaire amoureux, chez Plon, mais dans votre cas, chez Plon et Grasset,
oui,
qui est votre maison,
oui,
votre port d'attache.
Oui, c'est une coédition, j'imagine.
Merci infiniment.
Merci à vous.